Bonsoir tout le monde, bonsoir, bienvenue à une émission de Pop en stock qui n'est pas enregistrée en ce mercredi, mais plutôt le mardi, donc c'est à la dehors, il fait froid, il neige beaucoup, il fait plein de temps, bizarre, je vais enlever le jingle. Voilà. Bon, alors, et ce soir, on a aussi une première, on reçoit un invité spécial qui est avec nous de Kingston, Pierre-Luc, bonsoir.
Bonsoir.
Bon, yes, okay.
Bonsoir,
des choses
Pierre-Luc.
Qui, des choses qui fonctionnent. ça va bien?
Oui, merci, à vous.
Et on a reconnu la... Oui, ça va bien, on a reconnu la voix de Rachel Hippolyte, qui est souvent avec nous à Pop en Stock.
Tout à fait.
Pierre-Luc Landry, qui nous appelle de Kingston, c'est bien ça?
Oui, oui.
Où tu es prof au Collège Royal Militaire. Rachel, qui est enseignante ici. On a une nouvelle invitée ce soir qui s'appelle Jean-Guy Forget, qui est étudiant en littérature à l'UQAM, comme plusieurs nouveaux Pop en Stock qui est. Et moi, je m'appelle Hélène Lorrain, je suis votre animatrice ce soir sur cette émission qui est consacrée à une figure bien particulière de la musique contemporaine, du paysage de la musique contemporaine. Kanye West, ce rappeur connu pour son travail de production et aussi connu pour ses frasques dans le monde des célébrités. On le voit souvent faire la une, particulièrement depuis sa relation avec Kim Kardashian. On le voit donc souvent faire les unes des journaux à potins. Il y a quelques mois à peine, il a vécu un breakdown spectaculaire qui a vraiment... nourrit beaucoup de spéculations. D'ailleurs, Rachel, tu vas nous parler de ça.
Tout à fait.
Et il est né en 1977. Moi, je ne pensais pas que j'avais seulement 4 ans de différence avec lui. Je me sens vraiment très underachiever maintenant.
Moi, dans ma tête, il avait exactement le même âge que toi, Hélène.
Ah, OK, moi, je pensais qu'il était... qui avait 7 ans de plus vieux que moi. Pas 4. Très précisément, 7 ans. Donc, Pierre-Luc, toi, tu as lu la biographie de Kanye West?
Oui, un livre écrit par Karim Madani, qui est un journaliste français spécialiste de la culture américaine, puis des musiques que lui va appeler urbaines.
D'accord.
Un bel euphémisme pour parler des différents genres de la musique populaire afro-américaine.
Oui, tout à fait. Et qu'est-ce que tu as retenu de cette lecture-là?
Ben en fait, c'est très intéressant comme livre, d'abord pour se familiariser un peu avec le personnage, mais c'est aussi, à mon avis, un objet littéraire assez intéressant. Karim Madani, bon, c'est un journaliste, comme je le disais, qui a publié aussi du roman, dont un roman qui s'appelle Hip Hop Connection en 2007, puis une biographie de Spike Lee aussi en 2015. Et c'est un très grand admirateur de Kanye West, et ça, il s'en cache pas. Et la biographie est vraiment teintée de son amour pour le personnage, ce qui fait en sorte que on a l'impression vraiment de lire une hagiographie, l'histoire d'un saint. Et puis le sous-titre du livre, d'ailleurs, bon, le livre s'appelle très très simplement Kanye West, mais le sous-titre c'est Black Jesus, et c'est vraiment ça dénote très bien l'objectif littéraire, je trouve, du journaliste qui est peut-être un petit peu trop aveuglé par le bling, mais c'est vraiment un exercice de style. Il y a des critiques qui ont dit que Karim Madani écrivait comme d'autres rap. Il n'y a pas de discontinuité. Il parle de Kanye West en faisant du Kanye West.
Pour
moi, ça a été aussi la source de plusieurs malaises parce que il s'est adonné très librement à la misogynie, à la transphobie, puis aussi à des descriptions physiques assez critiquables sur les corps des femmes et des obèses, qui sont très étrangement les seuls corps qui font l'objet d'une description physique dans le livre. Mais à mon avis, l'intérêt principal, et c'est là où on va en arriver au sujet de l'émission d'aujourd'hui, c'est finalement parce que Madani nous raconte la vie de Kanye West dans la plus pure tradition du storytelling. Et puis, j'ai pour les besoins de la cause aujourd'hui, pour introduire nos auditrices et nos auditeurs au personnage, je propose de passer à travers certains événements marquants de la vie de Kanye West qui ont été identifiés par Madani pour essayer de dresser un portrait global que mes collègues par la suite pourront disséquer à partir d'angles plus précis, si vous me le permettez.
C'est pour ça qu'on en vient en premier, Pierre-Luc.
Oui, en plus, c'est logique parce que je vais commencer à partir de son enfance. Comme tu disais, né en 77 à Atlanta, et il a rapidement déménagé à Chicago avec sa mère. Chicago qui est, bon, le lieu d'origine dont il parle souvent dans ses textes. Sa mère, c'est une professeure d'anglais à l'université, et son père, c'est un ancien Black Panther qui est devenu le premier photojournaliste noir pour The Atlanta Journal-Constitution. Et donc, ça fait de Kanye West, disons, un privilégié dans une certaine mesure parce qu'il n'y aura pas à vendre de drogue dans les ghettos. Ses parents sont pas alcooliques, il se fait pas tirer dessus, il grandit pas dans des quartiers pauvres, donc il va même aller à l'université. Mm-hmm. Il s'inscrit dans un programme en arts visuels, mais il va abandonner rapidement. Et c'est ce qui va inspirer le titre de son premier disque de College Dropout en 2004, okay. qui était un peu un pied de nez à tous les high school dropouts avec qui il travaillait à la maison de production de Jay-Z. Donc, il y a une enfance privilégiée qui donne accès à tout un fonds culturel vraiment différent de celui des autres rappeurs, ce qui en fait un personnage assez intéressant et assez singulier, mais qui va traîner aussi comme un boulet d'une certaine manière parce qu'il devient, à cause de son enfance privilégiée, un outsider dans le milieu du rap. Il n'a pas connu la rue dont le rap est issu et les gens pour lesquels il travaille au début de sa carrière vont lui reprocher beaucoup d'être un fils à maman et vont pas le prendre au sérieux nécessairement. Et ça, ça va le marquer toute sa vie. On sait, bon, tu le disais en introduction, Hélène, qu'il a d'abord été connu comme producteur. En 2001, ce qui va l'avoir lancé vraiment, c'est la chanson « Ezo » de Jay-Z qui va l'imposer dans le monde du rap. C'est une pièce qui est parue sur l'album de Blueprint. Et là-dedans, Kanye West va échantillonner ABC des Jackson 5. Quand on écoute la pièce, on entend la ritournelle sans cesse. Puis il va, d'une certaine manière, participer à la restauration de la crédibilité de Jay-Z qui avait été assez écorchée par par les critiques pour ses albums précédents qui avaient été même considérés comme médiocres. Et avec cette pièce-là, Ezo, Jay-Z, mais surtout Kanye West, va faire la fusion entre la musique plus commerciale, qui est apte à capter l'attention des diffuseurs radio, et aussi le rap inspiré au contenu un peu plus recherché. Et là, on va mettre « recherché » entre guillemets, évidemment, pour dire les choses simplement. Parce qu'à cette époque-là, Kanye West a commencé aussi à travailler avec des rappeurs plus intello, comme Mos Def et Talib Kweli. Et il veut être cool et militant. Et ça, il le mentionne dans une entrevue au Rolling Stone que Madani va relater dans son livre. Il dit « Je veux faire du rap à message sans plomber l'atmosphère. » Donc, il continue à travailler comme ça pour différents artistes, pour le label de Jay-Z, Rockefeller. Et il va travailler dans l'ombre et ça, ça le dérange beaucoup. Il veut être rappeur, mais il se sent pas respecté. Et c'est là où commence son espèce de rivalité, amour-haine artistique et personnelle avec Jay-Z qui va moduler une bonne partie de sa carrière jusqu'à son très récent breakdown dans son spectacle. Kanye West, à ce moment-là, travaille surtout pour des gangsters, puis son enfance dorée, ça le place vraiment à l'écart des préoccupations des rappeurs pour qui il produit, et comme il est jamais pris au sérieux, il va essuyer plusieurs refus, il veut enregistrer des verses sur différentes chansons, on lui dit non, on va demander à quelqu'un d'autre à la place et tout ça. Et un soir, après avoir été humilié par Ludacris en studio, il va avoir un accident de voiture qui devient, d'une certaine manière, le moment, la naissance de Yeezus. Il est à Los Angeles et puis, bon, il est déprimé, il fume un joint, il prend sa Lexus, il conduit à toute allure, puis il va s'enrouler autour d'un panneau publicitaire. Accidentellement, c'est pas une tentative de suicide selon les faits rapportés par Kanye West lui-même. Et, bon, comme l'accident est assez violent, il perd connaissance. Et là, à ce moment-là, il y a une vision fondatrice. Et là, je vais citer, si vous me permettez, le livre de Karim Madani, parce que c'est assez délirant.
J'ai hâte d'entendre. Oui, vas-y.
Kanye a de nouveau 10 ans. Il marche vers l'école publique de son quartier. Jésus traverse la rue, coiffé d'une grosse afro, une méga chaîne en or autour du cou et une paire d'Adidas Superstar aux pieds, ainsi qu'un pagne Louis Vuitton. Kanye est transpercé par le regard lunaire de cet homme qui pose ses mains douces sur la tête crépue de l'enfant et qui disparaît comme un spectre. Donc, c'est la vision qu'il a au moment où il perd connaissance dans sa Lexus.
Donc, très influencé par le monde de la mode.
Oui, absolument. Le pagne Louis Vuitton, les Adidas Superstar, la méga chaîne et tout ça. Et là, bon, il est transporté en ambulance dans un hôpital de Los Angeles. Et il va être anesthésié pour une chirurgie reconstructrice de la mâchoire. Et pendant son anesthésie, il y a un air dans la tête qui lui trotte comme ça. Et il va se rendre en studio tout de suite après pour l'enregistrer. Et ça va être son premier single, Through the Wire. Et donc, il doit vraiment rapper littéralement Through the Wire, à travers les fils de métal qui retiennent ses os en place. Et donc, ça devient vraiment le début de sa carrière en tant que rappeur. Et... il va insister lui-même beaucoup sur le cliché psychanalytique de l'accident créateur, là, qui trouve toujours une place de choix dans les hagiographies, évidemment. Le saint va vivre une expérience traumatisante qui va l'amener sur le chemin de la création.
Oui, le narratif de la conversion, finalement. Là.
Exactement. Mmh. Même s'il était déjà dans le milieu du rap, en tant que producteur, là, c'est ce qui va l'affirmer comme rappeur.
Mmh.
Et il arrive avec ce single-là, il rencontre Jay-Z, il rencontre les associés chez Rockefeller qui vont le signer pour un contrat, mais c'est pas de bonté de cœur que Jay-Z le fait, nous dit Madani. Et donc, West va en profiter sur Through the Wire pour s'annoncer. Il va rapper de manière super personnelle en racontant son histoire pour mettre la table. Donc, il rappelle que c'est lui qui a produit les eaux de Jay-Z, qui l'a ramené dans le cool. Il se demande comment l'industrie va réagir devant Somebody from the Chi who won't talk about coke and birds but more like spoken word.
Oh.
Donc, il annonce, dans le fond, qu'il va faire un rap différent.
Oui.
Et là, c'est le début de sa carrière fulgurante. Et si je dis fulgurante, je pense que c'est pas une exagération, parce que en moins de 10 ans, il va enchaîner 7 albums qui vont se vendre à plus de 21 millions de copies, avec une 60aine de millions de téléchargements. Il y a 6 de ces 7 albums qui ont reçu la certification platine. Et bon.
3, une petite statistique, 3 de ces albums qui font partie de la liste mise à jour de Rolling Stone des 500 meilleurs plus grands albums de tous les temps. Donc, avoir un 3, c'est même
ben,
zéro.
Pour le début d'une carrière, en plus, ça fait 10 ans à peine depuis The College Dropout, bon, 12 ans, 13 ans, mais c'est pas une carrière très longue qui s'étire sur plusieurs années. Ce qui est davantage intéressant dans la biographie, bon, je passerai pas par-dessus tous ces albums parce que ça serait, on en aurait pour une heure pour chacun, mais ce qui m'a vraiment intéressé dans le livre de Karim Madani, c'est que Kanye West, vraiment, c'est un artiste avec une démarche, et il va pas hésiter à aller là où on n'attend pas le rap, album après album. Et donc, ça, c'est vraiment intéressant, parce que même si, bon, il aime bien se présenter comme étant celui qui a révolutionné les musiques urbaines que j'ai évoquées en introduction, il y a définitivement une démarche d'artiste derrière son travail, et c'est un perfectionniste. Il n'hésite pas à tout recommencer quand il n'est pas satisfait d'un enregistrement. Il y a une anecdote qui est intéressante par rapport à The College Dropout, c'est que l'album a leaké avant sa sortie officielle,
mm-hmm.
et Kanye West a décidé de retourner en studio pour réenregistrer complètement, pour produire un autre objet, pour pas se satisfaire de dire, bon, mais ça a leaké, c'est correct, on va y aller avec ça. Donc, vraiment, c'est un gars qui travaille très fort et qui travaille avec des gens aussi de tous les horizons, des styles qui sont pas nécessairement compatibles ou qu'on n'aurait pas pensé compatibles avec le rap. Moi, je pense surtout, un de mes préférés, une de mes collaborations préférées, c'est celle avec Justin Vernon de Bon Iver, entre autres sur My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Bon Iver, on l'imagine pas facilement sur un album de Kanye West.
En effet.
Mais quand on l'entend, ça marche.
Et dans en tant qu'ancienne académique qui a fréquenté beaucoup les colloques en études de la musique populaire, à chaque colloque où j'étais allée, il y avait tout le temps une présentation sur Kanye, et j'ai tout le temps été flabbergasté justement du niveau artistique qu'on peut tirer des œuvres de Kanye West, autant dans sa musique que dans ses vidéoclips qui sont visuellement très très forts.
Oui, notamment, bon, j'oublie le titre, mais il y a un de ses vidéoclips qui reprend toute l'esthétique du film d'animation japonais Akira, qui a été tourné à Tokyo, vraiment avec, je pense que c'est probablement une des chansons qu'il a fait avec Daft Punk. En fait, il y a vraiment des collaborations comme ça, et qui excusent peut-être un peu l'égomanie et l'égocentrisme de Kanye West, dont je pense Jean-Guy va parler tout à l'heure. Je me permets quand même de citer un entretien que Kanye West a donné au magazine Rolling Stone en 2005. Donc, c'est seulement après son deuxième album. Donc, on se rappelle, le gars a fait paraître 2 albums seulement, et la journaliste lui demande s'il croit vraiment avoir révolutionné la culture pop, et Kanye West répond « Oui, je l'ai fait. Et si on attend d'un soi-disant génie qu'il dénigre sa propre personnalité et son talent, je crois que c'est complètement absurde. » Donc vraiment, il est conscient.
Ça parle beaucoup du personnage, oui.
Ben, il est conscient de ce qu'il fait. Bon, il n'y a pas de distance, évidemment, par rapport à son propre travail, mais ce que lui va annoncer, c'est qu'il fait de la musique pour tous les gens qui ne s'inscrivent pas forcément dans le moule. Et on sait que, bon, les révolutions scientifiques se font par des changements de paradigme, etc.
Mm-hmm, mm-hmm.
Je ne sais pas si on peut parler d'un changement de paradigme encore, je ne m'avancerai pas là-dedans avec Kanye West, mais il y a quand même quelque chose de très unique dans sa démarche qui donne autant des tubes super populaires comme Gold Digger qui peuvent être un petit peu facile, disons, sur certains aspects, que des morceaux qui sont super puissants politiquement, avec des beats violents comme Blood on the Leaves, qui échantillonne la pièce Strange Fruit, chantée par Nina Simone. Donc, c'est une espèce de ballade morbide, vraiment d'une intensité remarquable, qui est à propos des lynchages que les Afro-Américains subissaient dans les années 30 dans le sud des États-Unis. Donc, il y a de tout dans cette œuvre-là. Et tu disais tout à l'heure, tu m'as fait remarquer ce que j'avais pas vu, mais qui est très pertinent, c'est que dans sa vision fondatrice, il va avoir beaucoup d'éléments du monde de la mode. Mm-hmm. Et ça, c'est quelque chose sur lequel Karim Madani insiste beaucoup dans la biographie de Kanye West, sur l'importance des aventures de Kanye West dans le monde de la mode. Bon, moi, il faut que j'avoue, je suis pas vraiment outillé pour commenter sur cet aspect-là de la carrière de Kanye West parce que je connais pas du tout le monde du fashion. Mais, bon, Madani va énumérer plusieurs tentatives du rappeur dans le monde du prêt-à-porter surtout. On sait qu'il est complètement, disons, obsédé par le polo rose Ralph Lauren. C'est un habitué des défilés. Mais
c'est un habitué des défilés, absolument.
Oui. Oui, mais ce que j'ai appris surtout, c'est qu'il désire la mode, en fait. Il veut être accepté par le monde de la mode pour quelque chose, pour des raisons, en fait, que Madani ne livre pas. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a un peu déçu dans la biographie, parce qu'on n'arrive pas à comprendre pourquoi il est prêt à tout pour y arriver, même si toutes ses tentatives récentes se sont soldées par des échecs. Il a même été affreusement moqué par Anna Wintour et tout ça.
Mm-hmm.
Et donc, oui, pardon, vas-y.
Non, mais c'est juste comme... moi aussi, je me demande pourquoi il veut être accepté autant. Je suis intriguée.
Puis en plus, c'est pas récent dans sa vie. C'est-à-dire que si, bon, c'était un des, disons, effets collatéraux d'être marié avec Kim Kardashian, on pourrait comprendre un intérêt pour le monde dans lequel elle baigne et tout ça. Mais c'est depuis son enfance, il a toujours été fasciné par le luxe. À l'école d'art, il était intéressé par la mode aussi. Il a fait un stage chez Fendi, si je me trompe pas, assez récemment. Donc, il y a vraiment un désir de mode. Mais bon, ça, je ne pourrais pas en dire davantage là-dessus. Je vais terminer sur un chiffre, en fait. Puis ça, c'est assez intéressant aujourd'hui, surtout. C'est 2020.
Est-ce qu'il veut se présenter comme président, c'est ça? Hein?
Oui. En fait, il n'y a pas à attendre. L'arrivée au pouvoir de Donald Trump là, cette année va peut-être changer les choses. Puis on a vu l'espèce de saga avec sa possible participation à la sermentation et tout ça.
Mm-hmm.
Mais il n'a pas attendu les élections de 2016 là, pour annoncer qu'il envisage de se porter candidat au présidentiel de 2020. Il l'a déjà fait dès 2015, qu'il l'a mentionné. Et ça peut sembler absolument farfelu, Kanye West for president. Bon, mais à l'heure aujourd'hui de la politique spectacle, comme on la vie, je trouve que le scénario n'est pas si improbable que ça.
Plus rien n'étonne.
Non, c'est ça, plus rien n'étonne. Et Madani achève son ouvrage par un exposé des politiques qui seraient mises de l'avant par Kanye West. Et je dois avouer, bien candidement, que j'ai presque hâte aux prochaines élections, tellement son programme semble intéressant. On trouve là-dedans des politiques antiracistes, mm-hmm. Une explosion de la barrière des classes sociales en politique, une réforme des lois sur les armes à feu, un désinvestissement dans les prisons à la faveur d'un réinvestissement en éducation, la décriminalisation des drogues douces, etc. Moi, je lis ça, j'ai l'impression d'entendre Justin Trudeau et l'optimisme niais des Canadiens de 2015.
C'est déjà aussi... plus de politique que ce que Donald Trump a dit.
En effet, et c'est énoncé plus clairement.
Incroyable. Oui, donc, merci beaucoup, Pierre-Luc. Je t'invite à rester des notes, même si on entend un petit « chut », pour que tu puisses commenter sur ce que les autres chroniqueurs ont à dire.
Rendrai mon « chut » discret.
Et pendant... En fait, tu parlais, il y a aussi un chroniqueur qui s'est ajouté à nous. Étienne Galarneau.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour. Et on n'a pas eu le temps de se présenter, donc qu'est-ce que tu fais dans la vie?
Je fais ça live sur les ondes de Pop en Stock, c'est absolument magnifique. En ce moment, je me pointe un incognito à Choc en tant qu'animateur à CISM depuis 3 ans déjà. L'émission va voir ailleurs si j'y suis, pour ne pas la nommer, ainsi que beaucoup d'autres projets. J'ai aussi également entamé, jadis, il y a plusieurs années de cela, et qui sont pas encore terminées malheureusement, des études supérieures en musicologie à l'Université de Montréal, avec un regard sur le rap, et c'est un peu un running gag auprès de mes amis, auprès de ma communauté, mais je vais l'expliciter ici pour de vrai. Je caresse un peu l'idée de faire un doctorat en philosophie de l'art au sujet de l'œuvre de Kanye West, et plus particulièrement à propos d'un enjeu. Je pense qu'on va établir les prémices de tout ça dans ma chronique finale de l'émission. Il y a beaucoup de choses qui ont été relevées. Je pense que je vais rebondir aussi sur des choses qui ont été dites, parce qu'il y a plusieurs éléments que je considère qui sont pas nécessairement explicités par rapport à Kanye, qui sont particulièrement intéressants.
Merci beaucoup. Et Chuck et CISM sont des amis.
Oui, bien sûr, bien sûr. On va saluer Will Maurer là-dessus, d'ailleurs.
Jean-Guy, que je t'ai introduit tout à l'heure, Jean-Guy, tu veux nous parler quelque chose qui est très présent dès qu'on parle de Kanye West, son narcissisme.
Oui, en fait, c'est pas mal ce qui est central à comment que Kanye West est représenté dans les médias. C'est absolument impossible d'en parler sans mentionner son ego. Tout le monde, on dirait, le déteste à cause de ça. C'est tellement ancré dans sa persona que c'est commun de voir des gens qui parlent de lui comme un narcissique, mais il serait totalement incapable de cibler une chanson de Kanye ou un moment spécifique qui justifierait cette représentation-là.
Ben, I'm gonna let you finish. But first... Beyoncé had made le meilleur vidéoclip de tous les temps.
Mais c'est quand même assez intéressant parce que l'attention est pas portée sur lui, mais portée sur quelqu'un d'autre. Là.
Absolument.
C'est ça. Moi, pour aborder le narcissisme, en fait, là, que je vais mettre un peu entre guillemets, parce que c'est un terme assez fort pour décrire quelqu'un qui a un gros ego, je le diviserais en deux facettes qui, même si sont indissociables, sont assez distinctes. Je dirais que la première, celle qu'on oublie assez souvent, mais qui aide à comprendre la seconde, c'est un aspect qui est plus contextuel. Ça vient du fait que Kanye West est un rappeur dans la culture populaire, mais on l'analyse pas nécessairement comme tel. Le bragade d'Ocio, ce qui est ce qu'on peut définir approximativement comme l'art de se vanter, d'être arrogant et prétentieux dans le rap, ce qui est comme l'envers de la médaille du rap explicitement politique, on peut le remonter jusqu'au balbutiement du rap, puis en trouver dès les années 80, là, sans problème. C'est un peu sur ce principe-là que s'est fondé le battle rap new-yorkais, puis on a vu des icônes comme Eric B. et Rakim faire ça, ce qui leur a permis, entre autres choses, évidemment, là, de passer à l'histoire. Puis une fois qu'on va quelques décennies plus tard, on regarde la carrière de Kanye, puis on voit un artiste populaire qui fonctionne selon les codes du rap, tels qu'ils sont dans leur propre champ, et ça semble un peu moins bien passer là, chez les gens... dans la culture populaire, qui voit un être narcissique sans le comparer aux autres rappeurs, mais en le comparant plutôt à des artistes populaires aseptisés. On oublie complètement le fait qu'au pic de sa carrière en 2005-2008, Lil Wayne s'autoproclamait le best rapper alive, que le surnom de Jay-Z, Hova, c'est un raccourci de Jay Hova qui vient de l'idée qu'il soit un God MC.
Oh, OK.
Kanye, en refusant d'adhérer à ces normes-là d'une culture populaire qui... on va pas se le cacher, là, est majoritairement blanche, là, qui demande que l'artiste soit humble. C'est une sorte d'acte de résistance pour Kanye. Il refuse totalement de s'adapter. Il garde la même posture constamment et s'impose dans la culture populaire d'une manière qui est beaucoup plus difficile à accepter que, par exemple, Drake, qui est un artiste quasi irréprochable avec un petit sourire d'Hollywood, ou Jay-Z, qui est quasiment plus un homme d'affaires qu'un rappeur rendu là dans sa carrière, là. Parce que même si Kanye il fait un rap qui est facile à consommer, puis qui est ouvertement et grandement influencé par les autres genres musicaux, son attitude reste fortement ancrée dans les tropes du rap.
Dans l'histoire du rap, tu fais bien de le souligner, ça s'est basé sur des espèces de concours de rue, que c'est qui finalement qui présente le plus gros égo et qui...
Les exemples de le battle rap, c'est une bonne...
Précisément dans le Bronx, là, c'est ça. Fallait happer la crowd, et pour ça, notamment, le talent de MC était très important, et de Scratch, mais aussi... toute la persona qu'on présente devant...
Entendons-nous que la culture hip-hop, de base, c'est une culture de revendication de l'espace que l'on parle avec la danse qui reprend l'espace dans la rue, avec le son qui est la reprise du matériel ancien pour faire de quoi de neuf, et aussi avec les graffitis qui est surtout sur les trains de métro au début, qui est finalement la reprise de l'espace urbain perdu. L'arrogance comme ça dans le battle rap devient aussi la prise de contrôle de l'espace volontaire et amenée par les rappeurs, justement. Donc, c'est tout à fait dans l'esthétique de faire ça.
Oui, de l'espace, le bloc.
C'est juste la façon dont les shows de battle rap se font, où est-ce que c'est vraiment comme une arène, là, t'as les gens autour, puis les deux rappeurs au milieu qui s'affrontent.
mais qui finalement ne sont que des entraînements pour pouvoir reprendre la parole qui leur est enlevée de manière sociétale, finalement. Donc c'est toujours fait de bonne guerre, ou du moins généralement.
Puis l'autre aspect dans tout ça, hors un peu du contexte du rap, c'est un aspect qui est un peu plus subtil, plus personnel. Si on va à l'entrevue qu'il a fait pour Surface Magazine, juste avant le dernier là, concert de la tournée San Pablo, le 19 novembre, qui a duré, je pense, c'est 35 minutes, Kanye se fait dire par la personne qui fait l'entrevue, You mentioned that you view yourself as an artist. T'as mentionné que tu te vois comme un artiste, puis instantanément, Kanye le reprend pour lui dire qu'il a jamais formulé sa phrase comme ça, qu'il est un artiste.
Okay.
La chose est surtout intéressante quand on se dit que jamais ça l'a dû arriver une situation comme celle-là, Lady Gaga ou David Bowie, des artistes blancs qu'on veut tout de suite dire qu'ils sont des artistes et les questionner sur leur art plutôt que de remettre en question leur statut. Dans une situation comme celle-là, on voit que l'ego, le narcissisme, la question de se mettre de l'avant avec confiance, arrogance et assurance, ça sert pas juste à s'inscrire dans la tradition du rap, mais aussi en tant que personne marginalisée qui évolue dans un genre qui a pas été assimilé par la culture dominante, d'affirmer son talent et son identité qu'on lui enlève sans cesse, là, comme tu viens de dire, là, de juste tout le temps avoir besoin de s'affirmer, même si pourtant, après 10 ans, il a déjà fait ses preuves.
Oui.
C'est bizarre qu'on demande encore à Kanye West de faire ses preuves en public quand il fait partie des artistes qui ont reçu le plus de Grammys de l'histoire. Il en a 21, ce qui est beaucoup plus que tous les autres artistes de son âge. Puis aussi, c'est étrange de voir que les Grammys n'ont jamais reconnu, par exemple, My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Ils l'ont pas nominé comme album de l'année malgré son succès critique monstre. C'est quand même un des albums...
C'est vraiment étrange, ça, oui.
Ouais. Parce que ça l'a quand même très bien vendu, oui. Et c'est considéré par Metacritic comme un des albums qui a reçu le plus de bonnes critiques de l'histoire, up there, avec Revolver des Beatles, par exemple.
Oui, c'était vraiment unanime, puis c'était... c'est un excellent album, hein. Moi aussi il me fait capoter. Puis j'en connais pas beaucoup des albums de rap qui me font capoter, mais lui, genre, je l'aime vraiment beaucoup.
Ah oui, mais c'est très rare aujourd'hui qu'on voit un album qui a autant de notes parfaites.
Oui, oui, c'est vrai, oui.
C'est des 10 sur 10, ça pleuvait quand c'est sorti. Faut pas aussi oublier qu'il y a seulement 2 albums rap dans l'histoire des Grammys qui ont gagné album de l'année, soit Speakerbox, Love Below et The Miseducation of Lauryn Hill, respectivement par Outkast puis Lauryn Hill, qui sont des albums qui versent beaucoup dans le R&B, en fait, qui est quand même un genre plus accepté que le rap dans l'espace public. C'est aussi sur un aspect similaire qui va se pencher dans une entrevue de 1 heure avec Zayn Lowe pour la BBC quand il parle de la chanson I Am a God, où est-ce que le message avait pas trop passé, les gens étaient vraiment choqués qu'il ose dire qu'il soit un God, pourtant, comme j'ai dit, ça se voyait déjà avec beaucoup de rappeurs avant, et il disait, est-ce que c'est plus facile à accepter si j'avais dit je suis un gangster, je suis un pimp, des images qui correspondent beaucoup mieux à l'image qu'on véhicule d'un rappeur. On n'a aucun problème socialement vouloir mettre à leur place ceux et celles qui sortent de l'étiquette, et c'est pour ça que quelqu'un comme Kanye West a vraiment besoin de constamment mettre de l'avant qu'il est une personne talentueuse, même si ça semble parfois exagéré, mais c'est qu'il a besoin de faire un effort supplémentaire par rapport aux autres artistes pour être accepté par son milieu, autant dans la musique que dans la mode. Pour rebondir un peu sur ce qui a été dit avant, Kanye West a un énorme focus sur la mode parce qu'il croit que c'est ce qui influence le plus la vie des gens, parce que tout le monde porte des vêtements, et les célébrités sont jamais prises au sérieux par le monde de la mode qui est super élitiste et surtout super blanc.
Oui, c'est vrai que...
Puis aussi, on va souvent se concentrer juste sur ses déclarations loufoques, même si dans le même élan, il va dire quelque chose qui serait plus logique ou qui viendrait ajouter une nuance à ce qu'il va dire. Par exemple, dans le concert pour VH1 Storytellers, où est-ce qu'il chante la chanson Touch the Sky, il mentionne « My greatest pain in life is that I will never be able to see me perform ». Ce qui était une citation que j'ai vu beaucoup circuler sur les médias comme une preuve de l'ego démesuré de Kanye West. Pourtant, la chanson d'avant, Amazing, dans le même concert, il s'excuse de son manque de tact dans les situations publiques et explique son ego en disant « I was this young Chicago boy who came in the door and got all these awards and people clapped and sang his praises to the point where he could not lose and if anyone didn't pick him, they could not choose. » Où est-ce que là, il met tout en parallèle comment qu'il a... Ben, le milieu duquel il vient, puis qu'à force d'être acclamé, éventuellement, il a mis de l'avant son propre talent. Dans l'entrevue aussi de Zane Lowe que j'ai mentionné, il dit « When you're a fan of Kanye West, you're not a fan of me, you're a fan of yourself. » Et c'est une grosse partie de son message de l'ego, une grande raison pourquoi il y a cette façade-là. C'est non seulement qu'il défend l'ego pour que lui puisse s'affirmer, mais il souhaite que les autres puissent le faire aussi. Il souhaite inspirer d'autres personnes autour de lui. Depuis la sortie de Dark Twisted Fantasy, depuis qu'il y a une certaine légitimité critique encore plus grande, il utilise beaucoup son exposition médiatique pour promouvoir des artistes et des designers beaucoup moins connus, et porte énormément un discours de conscientisation sur le classisme dans pratiquement l'ensemble de ses entrevues ou de ses conférences, là, notamment les conférences qu'il va faire à des écoles de design américaines ou à Harvard.
Ce qui rejoint donc son programme électoral de 2020.
Oui, ben je pense que c'est là qu'ils ont été puisés, ces idées-là, là, parce que je pense pas que Kanye a produit un programme électoral lui-même. Là.
Oh, tu le sous-estimes, c'est pas vrai. Correct.
C'est très sous-estimé.
Il est pas encore
vraiment.
Et en même temps, il a le mérite d'être conscient aussi de cet égo-là. Contrairement à un véritable mégalomane, en tout cas il me semble, qui tout simplement se présenterait comme étant God, mais Kanye West, il n'hésite pas non plus à mettre de l'avant son égocentrisme et à l'utiliser aussi, comme tu le disais, au profit des autres, au profit des idées aussi.
Oui, mais c'est drôle, j'avais justement mentionné une citation d'une chanson de College Dropout, la dernière chanson, en fait, Last Call. Il dit à un moment donné, « I could let these dream killers kill my self-esteem or use my arrogance as the steam to power my dreams. » On voit déjà que l'arrogance est un moyen, c'est pas tellement comme une façade intrinsèque au personnage, c'est vraiment le moyen par lequel il va défoncer les portes. Et en fait, je trouve que 13 ans plus tard, il montre vraiment qu'en fait, ce qu'il veut, c'est une démocratisation du droit à tout le monde de rêver puis de vouloir aller plus loin que ce qu'ils ont déjà ou que leurs conditions le permettent. Je voulais clore tout ça avec une citation qu'il a fait au gala des MTV Video Music Awards en 2016. Il a parlé de beaucoup de choses, là. Souvent, ça paraît que ses speeches sont assez improvisés. Puis, je gêne pas de mentionner, d'ailleurs, une petite critique que les grands tenants économiques sont majoritairement blancs. Il parle des problèmes de violence à Chicago. Toutes des choses dont personne parlait quand il parlait de ce speech-là. Mettait plutôt l'accent sur le fait que c'était désorganisé. Et j'ai vu très peu de nouvelles qui relatait cette citation-là. Il cite une de ses amies qui s'appelle Sequoia, et souvent Kanye West fait critiquer du fait qu'il va se comparer ouvertement à des grandes icônes américaines comme Steve Jobs ou Walt Disney, et il dit « There's three keys to keeping people impoverished. That's taking away their esteem, taking away their resources, and taking away their role models. »
OK.
Qui veut grosso modo dire, il y a trois clés pour garder les gens pro vie, soit leur retirer leur estime, leur retirer leurs ressources et leur retirer leur modèle. Et dans le fond, Kanye West, toujours dans sa logique de combattre le classisme, va vraiment vouloir répondre à ces questions-là en disant que lui-même va créer des modèles, lui-même va promouvoir des ressources et lui-même encourage les gens d'avoir une meilleure estime d'eux-mêmes par son égo à lui.
C'est quand même plate que ça tombe si souvent... Que ça soit repris si souvent comme étant une espèce de, c'est ça, de narcissisme inconséquent et...
Mais en fait, puis là, je me sens très mal placé pour en parler, mais quand même pour répondre à ça. Moi, c'est quand j'ai redécouvert récemment, ou même que je me suis vraiment plongé profondément il y a environ un an dans The College Dropout, j'ai été frappé par la première pièce, l'entrée de son premier album, j'ai l'impression, explique tout ce qu'il y a à comprendre sur Kanye West, où est-ce que le cœur d'enfant dise « Drug dealing just to get by, stack your money till it gets sky high, we weren't supposed to make it past 25, jokes on you, we're still alive. » Où est-ce que finalement, son point, c'est de dire, puis le College Dropout, je le voyais aussi, mais comme visiblement la biographie dont que Pierre-Luc, c'était, ouais, ça, j'ai cherché son nom, que Pierre-Luc a mentionné tout à l'heure, sans dire le contraire, mais il y avait une partie de moi qui me disait, ben d'accord, finalement, College Dropout, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui n'est pas aidé par le système, qui est systémiquement, dis-je, empêché d'aller vers l'éducation, qui va justement aller vers le hustle, vers la vente de drogue, vers des choses pour pouvoir avancer, et finalement va réaliser que le système est tellement contre lui qu'il ne prenne même pas en considération le fait qu'il pourrait survivre au-delà de ça. Et on s'attend à ce qu'il vive ce mode de vie-là parce que c'est le mode de vie qu'on impose ces gens-là depuis les années 60-70, depuis la fin des politiques ségrégationnistes, et qui disent « Mais vous savez quoi, j'ai réussi à le faire quand même. » Et j'ai toujours eu l'impression depuis ce temps-là que Kanye West, ce qu'il fait, et on peut le voir à travers ses interventions avec Taylor Swift, on peut le voir aussi avec celle qu'il n'a pas eue envers Beck, que c'est finalement, je me comporte envers la société, envers Hollywood et les gens, comment les Blancs sont toujours comportés envers nous, et vous avez toujours trouvé ça correct, mais là, moi, j'arrive et je me comporte en blanc envers vous, et vous, vous avez un problème. Puis j'ai l'impression qu'il y a beaucoup un problème dans la bravade de Kanye West qui dit au fait que il est noir. Et on n'a pas l'habitude de voir quelqu'un qui se défend comme ça.
Tout à fait. Dans le fond, où est-ce que il... C'est drôle parce que il est à la fois dans un style où justement qui est très accolé sur les noirs, mais avec une attitude qui est très blanche, en quelque part, d'une arrogance d'imposition qui, dans nos têtes puis dans la psyché collective, est blanche. Et voilà qu'un noir le fait. C'est effectivement une certaine forme de transmission, mais de traversée.
Translation.
Merci, Hélène, de translation raciale qui est super intéressante, dans le fond.
Et même jusqu'à un certain point, s'appeler God, ça fait des années, ça fait depuis les années 90. Wu-Tang Clan le faisait aussi.
C'est
une manifestation du mouvement religieux, mais qui est une espèce de sous-branche de la Nation of Islam, qui vient de Malcolm X et tout, parce que finalement, Dieu, c'est l'être humain, parce que si tu le déclines, Allah, c'est arm, leg, leg, arm, head. Donc, c'est l'homme en tant que tel, et la femme et la terre. Donc, il y a plein de rappeurs qui disaient ça. Jay-Z est un croyant de ça aussi. Je cherche toujours je sais que c'est les quelque chose pour cent, mais je sais plus si c'est les 9% ou les 10%, mais bref. Je vais revenir avec ça un peu plus tard, peut-être. On se m'en souvient plus non plus. Pourtant, tu m'as vu faire une conférence là-dessus à l'Université de Montréal l'an dernier. Mais bref, toujours est-il que lui qui prétend ça, ça passe mal parce que c'est pas un code qu'on reconnaît, mais dans l'espace public. 5%ers. 5%ers. Merci beaucoup. Et donc, puis quelqu'un, un autre conférencière que j'avais vu, elle aussi, j'ai oublié le nom, c'est pas grave, disait, oui, il peut revendiquer que c'est un dieu, mais à quelque part, toute la complexité de Kanye West arrive du fait qu'il prétend que c'est Dieu. Pourtant, s'il va dans un restaurant, il peut très bien se faire appeler le nègre aussi.
Mm-hmm.
C'est encore présent. Mm-hmm. Puis il doit encore lutter pour ça.
Oui.
Puis doit justifier du fait de dire comme oui non mais j'existe, je suis Dieu pour mon monde à quelque part aussi, s'il veut être représentant messianique pour une population.
C'est un rôle modèle aussi, dans le fond, d'où le fait que il peut sembler se mettre au-dessus, mais parce qu'il sait aussi la portée de son rôle, tu sais.
Mais après, où est-ce que la fiction et la mégalomanie prend le dessus par rapport au personnage et au statement artistique? Ça, c'est dans la complexité et le côté fascinant de la figure de Kanye West.
Et on va poursuivre avec Rachel. On va pas aller en chanson parce que le temps passe. C'est super intéressant. Rachel, tu veux nous parler des enjeux de santé mentale qui ont été soulevés avec le dernier breakdown de Kanye sur scène?
Oui, effectivement, qui a eu lieu à la mi-novembre 2016. En fait, c'est que ce qui m'avait amené à vouloir parler de ce sujet-là, c'est que on l'évoque beaucoup. Jean-Guy en a parlé avec le narcissisme. Quand on parle de Kanye West, on va le traiter automatiquement de fou.
Oui.
C'est un personnage. En fait, les deux mots qui reviennent le plus souvent, c'est un personnage et c'est un fou. Même lorsqu'on avait commencé à planifier l'émission de Kanye West il y a un certain temps, un des collaborateurs a carrément écrit « Ok, est-ce qu'on va parler de la période où est-ce qu'il était un producteur ou de celle où est-ce qu'il est devenu un fou personnage? » Donc, déjà là, de l'évoquer, c'est comme si cette hospitalisation force aussi à s'attarder sur le fait qu'il est devenu un sur cette épithète de fou-là. Et donc, dans le fond, de voir à la fois le fait que ce soit un homme noir dans ce milieu-là du hip-hop qui est quand même questionnant pour des questions de santé mentale, pour...
La musique, l'industrie de la musique populaire est extrêmement dure sur la santé mentale.
Absolument.
C'est hallucinant.
Absolument. C'est pas seulement sur le hip-hop, là. C'est pas seulement le hip-hop comme tel. Il y a des... Comme par exemple, quand Kim Coody a justement parlé de ses propres problèmes et a fait le hashtag YouGoodman, ben Drake s'en est moqué lui aussi sur Twitter. Donc, déjà là, avec cette initiative-là aussi de Kim Coody qui a parlé, ça a incité beaucoup de gens à parler publiquement de leurs problèmes de santé mentale et de leur propre combat suite à l'hospitalisation de Kanye West. Kendrick Lamar, entre autres, a pris la parole et tout ça.
Mais il a aussi été ridiculisé, là. C'était vraiment soudainement le pauvre petit Kanye West.
Absolument. Oui,
avec les problèmes qu'ont vécu en même temps Kim Kardashian à Paris, qui a été cambriolée. Je veux dire,
puis, ça arrivait à peu près en même temps, puis ça, justement, c'était comme...
La mort de sa mère aussi à Kanye West, si je me trompe pas. Là.
Ça fait quelques années
déjà. C'est moins l'anniversaire était très près, c'est un événement qui le marque encore.
Oui. Absolument, puis donc, justement, qui ont interpellé dans le fond, mais c'est vrai là, c'est que on dirait que comme ces événements-là sont arrivés en même temps à un couple qu'on aime détester en quelque part dans la figure, dans la culture populaire, qui fait que soudainement on le prenait pas au sérieux le fait qu'il était malade, mm-hmm. ce qui est aussi un problème par rapport à la santé mentale dans les communautés noires, oui. où est-ce que justement, où est-ce qu'on prend pas à la fois les membres eux-mêmes de la communauté prennent pas la santé mentale au sérieux et à l'extérieur, dans le fond, de la vision extérieure aussi, les problèmes de santé mentale qui sont ressentis par la communauté noire sont pas pris au sérieux. Mm-hmm. Historiquement, parce que mettons dans les religions et les traditions caribéennes et afro-caribéennes, le vaudou, à titre d'exemple, m'a prendre un exemple que je connais. Le vaudou, est-ce que pour entrer en communication avec les divinités, avec les esprits, il faut se mettre dans un état de transe qui peut ressembler à certains symptômes de psychose ou de schizophrénie, entre autres, ce qui n'aide pas nécessairement à se faire prendre au sérieux. Si tu fais une psychose, ce qui est arrivé à Kanye West, en fait, son fameux breakdown a été aussi une psychose, c'est automatiquement, non seulement il n'est pas pris au sérieux parce que c'est Kanye, mais ensuite, historiquement aussi, il ne va pas être pris au sérieux mm-hmm. parce que... automatiquement, on va faire « Ah, mais dans le fin fond, vous savez... » Parce que c'est associé à des traditions, au mal aussi, ça va des nécessairement pas être pris.
Qui ont l'air, comment dire, ça a l'air d'être joué. Moi, les trans, là, j'étais encore un peu comme « Are you guys faking it?
» Oui, donc je ne vais pas faire ça en onde, mais j'ai déjà vécu une expérience de ce genre. C'est très étrange.
Mais dans notre monde blanc, justement, habitué au saut puis à être tout le temps comme très très droit, puis les moments où on pète la fille, c'est les moments où on prend des drogues.
Absolument, tandis que là, c'est pas le cas.
Là, ouais, c'est ça.
Oui.
Ça devient... Comment, une psychose, ça devient vraiment... Comment expliquer ça? Comment rationaliser ça? Puis effectivement, donc, toute crédibilité est perdue, puis ça devient comme...
Absolument. Tu sais, c'est aussi une des affaires, une des critiques aussi qui peut être faite, puis qui est faite par plusieurs personnes soignants, justement, de la communauté afro-américaine, c'est de dire que de percevoir ces entrées en transe-là comme étant le mal, c'est aussi accolé de ces traditions-là au Christ. D'accoler le christianisme à ces traditions-là, mm-hmm. ce qui est une certaine forme de colonialisme.
Oui,
et là, à ce moment-là, qui fait qu'on ne traite pas ces gens-là convenablement parce qu'on les traite avec une loupe blanche de la religion, d'une religion traditionnellement blanche.
Impérialiste!
Merci! Impérialiste, tout à fait. Ce qui est pas tout... Donc, tout est pas net là-dedans. La critique du colonialisme aussi pourrait être mise là-dedans pour la raison pour laquelle, justement, peut-être qui expliquerait la vision qu'on a eue du breakdown de Kanye mm-hmm. West comme étant quelque chose de pas sérieux. Tu sais.
Mm-hmm. Alors qu'on n'a pas de difficulté à comprendre un artiste qui a des problèmes de santé mentale habituellement, là, ce qui est complètement paradoxal. On n'a qu'à penser à Fiona Apple, que Kanye West aime beaucoup, qui a eu plusieurs épisodes comme ça de dépression majeure, qui, à mon souvenir, n'a pas été traité avec autant de condescendance.
Non, mais c'est une femme aussi. Les oui. femmes sont des petites choses fragiles.
C'est vrai, c'est vrai. Mm-hmm.
Oui. Cela dit, dans le monde de l'art, là, effectivement, la maladie mentale est quelque chose... associé au blanc, est quelque chose de très, comment dire, c'est pratiquement obligatoire. Il faut que tu en aies une. C'est souvent moteur de création. C'est quelque chose qui est extrêmement souvent discuté dans les autobiographies aussi, ou les biographies de stars comme étant une espèce de moment rédempteur ou une planche de salut pour pouvoir continuer ensuite de faire de l'art qui vaut plus la peine, là, qui est vraiment ancré dans une espèce de réalité qu'il n'y avait pas avant.
Absolument.
C'est très, le moment de la maladie mentale chez l'artiste, particulièrement chez l'artiste masculin, est très important. C'est comme c'est presque un moment de virilité, justement.
Absolument. Mais tu parlais du fait que la santé mentale qui était perçue comme un problème de blanc, c'est aussi une des raisons qui fait que beaucoup de gens dans la communauté afro-américaine et noire en général, les communautés noires, n'osent pas consulter parce que pour eux, c'est justement exactement qu'est-ce que tu disais, c'est perçu comme étant un problème de blanc et un problème de riche. Mm-hmm. Ce qui, en fait, dans le cas de Kanye, d'ailleurs, il a un, mais pas l'autre, donc les riches, mais pas blancs. Ce qui fait, j'imagine aussi qu'il a dû créer le fait qu'il n'ait pas été pris au sérieux, parce que si on dit, oh, vous savez, la maladie mentale, c'est nécessairement un problème de riche, donc c'est normal, tu sais, exactement un peu qu'est-ce que tu disais avec aussi la figure de la masculine, comme il faut que tu en aies une, ça fait partie du mythe, en quelque part, tu sais.
Mais en même temps, ce qui est assez, je sais pas, particulier par rapport à son cas, c'est que, par exemple, il va avoir fait des sorties publiques où est-ce qu'il va avoir ouvertement parlé du fait qu'il se sent responsable de la mort de sa mère et que ça l'a amené à avoir des idées suicidaires. Mm-hmm. Et pourtant, quand Jay Leno l'a interviewé par rapport à l'affaire de Taylor Swift, la première chose qu'il lui a dit, c'est « Comment tu penses que ta mère... » Ben, en fait, qu'est-ce que ta mère penserait de cet événement-là, ce qui a causé à Kanye West d'avoir un breakdown sur le plateau? On est capable de reconnaître que c'est grave, que les artistes doivent passer par là, mais pour Kanye West, c'est jamais pris au sérieux. On lui remet d'en face la mort de sa mère carrément, tu sais.
Absolument.
C'est vraiment très rude de la part de Jay Leno. Comment? Je n'étais pas au courant de ça, puis je suis comme, non.
Oui. Non, effectivement, c'était... ça manquait de classe, comme on dit. Mais non, c'est ça. Donc, c'est aussi à la fois un des... probablement une des raisons pour lesquelles ça n'avait pas été pris au sérieux, aussi le fait que, ben, c'est une personne riche, dans le fond. Mm-hmm. Chez les femmes, tu sais, on parlait des femmes avec Fiona Apple, chez les femmes noires, en fait, ce qui fait la particularité et aussi, en quelque part aussi chez les hommes, c'est le fait qu'on s'attend à ce qu'ils soient forts, tu sais, les stéréotypes, dans le cas des femmes, de la angry black woman, puis de la strong black woman, ces stéréotypes-là sont très forts dans la communauté que, nécessairement, voyons donc...
Que tu craques, ça se peut pas, là.
Ça se peut pas de craquer, tu sais, c'est impossible. Qu'on s'attend des femmes, est-ce qu'elles supportent tout? Les hommes noirs aussi, la culture hip-hop aussi est une culture hyper masculine dans le stéréotype, hyper masculine, hyper virile. Et donc, le fait que quelqu'un peut être affecté par des problèmes de santé mentale, c'est comme... inconcevable, ce qui incite pas beaucoup de gens à consulter aussi, parce que c'est... ben voyons, ça va pas si pire que ça, je suis capable de le supporter. Il y a aussi pour certains des raisons historiques de, on s'entend que les Noirs ne l'ont pas eu facile, l'esclavage et tout, et donc par conséquent de faire, c'est pas si mal. Il y avait eu un article justement d'une fille où est-ce qu'elle disait, ben là, Rosa Parks a passé pire que moi, qui donnait son témoignage de fille qui a vécu une dépression. Puis c'était ressorti aussi beaucoup.
OK. Le temps file. Merci beaucoup, Rachel. C'était vraiment très, très pertinent. Puis c'est vrai qu'on parle beaucoup de santé mentale. Ça va être bientôt la journée. Il faut qu'on se parle. Mais c'est vrai, il y a Michel Amambara qui est porte-parole de cette journée-là. Mais c'est rare qu'on coupe les questions raciales aux questions de santé mentale qui sont... qui sont comme tout le temps pas mal blanches.
Absolument.
C'est vraiment quelque chose à questionner.
Oui, puis on parle souvent d'intersectionnalité, mais c'est ça, j'aurais pu m'attarder sur le fait que justement la pauvreté n'aide pas à la santé mentale et justement compte tenu que 30% des Noirs au Canada sont pauvres, ça doit pas aider nécessairement non plus. J'aurais pu en rajouter beaucoup, mais le temps file. mais c'est des questions super intéressantes d'intersectionnalité, dans le fond, dont on parle trop peu.
Oui, non, on va parler. On a déjà parlé à Popenstock, on va continuer à parler, c'est super important. Et on termine avec Étienne, qui était déjà ponctué de tes remarques très pertinentes, les chroniques précédentes. Et là, moi, j'ai très, très hâte d'entendre.
Oui, mais de fait, je ne sais pas à quel point je vais avoir beaucoup de choses à rajouter parce que c'est dit après, mais c'est correct parce que j'ai pris très, très peu de notes, mais je pense que c'est...
C'est un bon improvisateur.
De deux, c'est une histoire que je connais bien que je vais raconter, et de trois, je pense que c'est tout à fait à l'image de ce que je vais raconter. J'aimerais qu'on recule un peu plus longtemps, un peu plus loin en arrière. Bon, certes, Pierre-Luc a parlé des origines, mais deux dernières chroniques, qu'on a beaucoup parlé des derniers événements, des derniers spectacles, la tournée Saint-Pablo. J'aimerais qu'on recule d'environ 2 ans, à peu près à pareille date, où est-ce que Twitter, on le connaît maintenant, la grande plateforme de plusieurs des grands orateurs de ce monde, hein, je veux dire, je sais pas, Donald Trump a commencé ça, Kanye West aussi était un pas pire Twitter jadis.
Denis Coderre,
il y en a un autre aussi, un très bon Twitter qui a été renvoyé de Twitter récemment, dont je vais parler parler plus tard. Et les gens qui me connaissent un peu vont savoir où je m'en vais avec ça tout de suite.
Moi, je la connais pas, fait que je sais pas.
C'est ça, mais tu sais pas où je m'en vais, c'est un très très bon. Mais bref, il y a de ça environ 2 ans, Kanye West annonce sur via Twitter, je vais faire paraître un nouvel album qui va s'appeler So Help Me God. Parfait, la communauté s'énerve un peu, mais il n'y a pas beaucoup de nouvelles de ça. Peut-être quelques mois plus tard, il va dire « Finalement, j'ai changé d'idée, ça s'en vient toujours, il va s'appeler Swish ». D'accord, on continue, on est environ vers septembre. D'accord, ça va aller, mais pas grand-chose qui se passe de ce côté-là. Il travaille ses lignes de vêtements, il travaille sur ses souliers. On voit pas trop ce qui se passe. Rendu vers janvier 2016, il dit « Oui, c'est correct, l'album Swish s'en vient, on rentre en studio, il va sortir en même temps que ma nouvelle ligne de vêtements, ça va sortir vers la Saint-Valentin ». Oh, on s'énerve, mais... Instagram se fait aller, Twitter se fait aller, les gens se font aller, ça rentre en studio jusqu'en février. L'album est supposé sortir le 13 février. Pis c'est encore en studio, là. Il y a des gens qui arrivent, Chance the Rapper sort de studio, qui d'autre aussi, Rihanna sort de studio. Ok, qu'est-ce qui se passe avec ça? Environ 2 semaines avant, il fait l'annonce, puis il dit, changer de titre. J'ai changé de titre, ça va être TLOP. Qu'est-ce que ça veut dire TLOP? Si vous le devinez, je fais gagner des souliers. Quelqu'un le devine? The Life of Pablo. Et là a commencé ce qui me semble être l'annonce de deux révolutions avortées, malheureusement, à travers l'œuvre de Life of Pablo. Parce que Kanye West lui-même l'a annoncé via son Twitter. Je n'ai pas la date, malheureusement, parce que ma feuille de notes est très, très brève et je n'ai plus de piles dans mon téléphone pour vérifier, pour faire mon fact-checking comme il faut. Mais il avait annoncé, ce ne sera pas l'album de l'année de Life of Pablo. Ça va être l'album d'une vie. Et... je pense que c'est intéressant qu'ils disent l'album d'une vie parce qu'on peut se demander de quelle vie. De fait, la pochette, lorsqu'il est sorti, c'était le fameux fond orange avec les écritures et c'était écrit « Which one, which one, which one, which one ». Et première révolution qui arrive ici, quel Pablo on parle? On pourrait faire un lien assez évident avec son collègue de Watch the Throne, avec le bon Jay-Z, qui chantait Picasso Baby sur son album de 2013, de Magna Carta Holy Grail. Donc, voir la version artistique « Je suis le Picasso des temps modernes ». Par contre, plus récemment, on voyait quelqu'un aussi mentionner, et c'était Pablo Escobar. Oh. Which one? La grande question, la grande dichotomie qui se retrouve chez Kanye West, on l'a mentionné aussi depuis le début, c'est la dualité entre l'artiste et l'homme d'affaires. Et on a et l'homme public, en fait. On a de la difficulté à le percevoir en tant qu'artiste parce qu'on le voit trop comme un homme d'affaires. Et les hommes d'affaires ont de la difficulté à le voir en tant que tel puisqu'il est trop artiste. Première révolution évoquée. Qui sera développé un peu plus avec mon deuxième intervenant. Et si, au 21e siècle, l'investissement et le fait de rendre d'affaires n'est pas devenu une nouvelle forme artistique?
Okay, ouais.
Exemple, l'album est sorti, mais c'est un peu un récit décousu, donc il y a des éléments qui vont s'éclaircir un peu plus tard lors de mon laïus, si j'ai le temps de me rendre jusqu'à la fin, parce que je vois le temps qui défile. Il y a un investisseur qui a acheté un album de rap pour $2 million qui s'appelle Martin Shkreli. Et j'aimerais qu'on en parle en tant qu'investisseur, en tant que mécène, et non pas en tant qu'investisseur dans les pharmaceutiques. Parce que moi, je m'y connais pas en investissement médicaux. Par contre, je m'y connais en mécénat. Et le fait que Wu-Tang Clan disent, on va vendre un album à $2 million et celui qui le possède en fera ce qu'il veut. Le gars l'achète. Après ça, les fans disent, est-ce qu'il va le remettre en ligne? Puis il dit, non, je l'ai acheté.
Faut parler de Martin Shkreli un peu, déjà en partant, l'espèce de super vilain d'Internet qui a boosté les prix d'un médicament très efficace contre le VIH, juste parce que ça lui tente, on dirait.
Mais qui est, à mon sens, aussi la
face a fait ses dents.
La face a fait ses dents, mais que j'admire, mettez des guillemets là-dessus, que j'admire, en ce sens où est-ce que c'est le premier à m'avoir fait penser à la question et si l'investissement était une forme artistique. Puisque justement, faire monter les prix des pilules, c'est une chose, mais après ça, d'acheter un album à $2 million, qui est une copie unique de l'album de Wu-Tang Clan, Once Upon a Time in Shaolin, et ils ont dit eux autres pendant 100 ans, vous avez les droits exclusifs, vous faites ce que vous voulez avec un peu dans l'idée, on va faire une exposition permanente et les gens vont pouvoir aller l'écouter. Lui, il garde pour lui, il ne ligue pas sur Internet et le public dit, vas-tu le sortir? Il dit, pourquoi est-ce que je le ferais? C'est ma propriété.
Et
la question sous-jacente à ça, c'est, si réellement Wu-Tang était des artistes et voulait que les gens aient accès à leur œuvre, ils l'auraient sorti. Ce qu'ils voulaient faire, c'est une passe de cash et ils sont juste fâchés que je les ai traités en tant qu'homme d'affaires. Avec mon investissement. Son investissement, je trouve que c'est une forme artistique. Et de fait, lui-même, la veille de la sortie officielle de Life of Pablo, a fait un tweet en disant « Kanye, je t'offre 8 millions pour la copie exclusive. Si tu me réponds pas, je vais monter les enchères. » Il a offert 16 millions. Kanye a pas répondu, mais cette question-là, je la trouve intéressante aussi, justement, parce que sans le vouloir, il a posé un ultimatum à Kanye West. Oui. Si t'acceptes que ton œuvre ne soit pas distribuée simplement pour une passe de cash, à ce moment-là, arrête de te considérer comme un artiste. T'as trahi ton œuvre. Or, si jamais tu continues à le sortir et tu refuses de l'argent, c'est qu'à tout prix ton œuvre doit sortir, tu peux te considérer comme un artiste. Et je trouve que cette dualité-là est, ma foi, fort intéressante. Et c'est une rencontre importante, un pinacle qui est arrivé avant la sortie de l'album de Life of Pablo. Deuxième révolution. L'album sort. Mais on se rappelle, là, 2 semaines avant, c'était pas fini, cet album-là. Mm-hmm. Il y avait des gens qui sont rentrés en studio. T'avais Chance the Rapper qui disait « Oh, je sais pas si mon verse sur Waves va être là. Mon mastering, je sais pas trop. » Il sort seulement sur Tidal. Et ça aussi, c'est là que la question de l'investisseur est intéressante. Parce que Kanye West est un actionnaire principal de Tidal, oui. une plateforme de promotion web. Deuxième révolution, comme je l'ai dit. Il sort juste là-dessus. Le lendemain, il ressort une autre version en disant « Ah, Chance, t'es pas content avec le mastering de Waves, j'en sors une nouvelle version. » Il a dit qu'il sortirait jamais sur Apple Music. Finalement, 3 mois après, il l'a sorti. Mais pendant les 3 mois où l'album était juste sur Tidal, pas de copie physique, pas en vente, ce qu'on avait là, c'était peut-être la nouvelle manière de penser la musique, ou du moins de penser la manière de commercialiser la musique. On a peur du streaming, on a peur du piratage. Qu'est-ce qui arrive si ton album n'est jamais terminé? Finalement, le mastering n'était pas bon. Finalement, j'ai rajouté un verse. Finalement, j'ai rajouté une toune. Finalement, je l'ai enlevé. Tu pourras jamais le télécharger, cet album-là. Parce que si tu le télécharges, t'auras pas la version finale. Puis la version finale, c'est peut-être celle-là qui compte. Tu pourras jamais revenir dedans. Donc, j'ai besoin de payer mon abonnement mensuel. Je vais toujours payer pour l'avoir, pour y avoir accès. Sinon, j'aurai jamais accès à l'œuvre finale complétée. Finalement, il l'a terminé, son album. Il l'a mis sur Apple Music. C'est terminé. Mais...
Moi aussi, j'ai quelque chose à dire. De manière un peu old school aussi, il y avait Beck qui avait un album juste en partition. Que là, c'était aux usagers de le compléter, finalement. Donc, il y a des...
Mais à quelque part, tu l'achètes une fois, tu fais une photocopie, c'est fini. L'autre...
Oui, c'est différent, mais il y a quelque chose de l'ordre des nouvelles commercialisations. Effectivement. De la musique.
Et il a ouvert pendant un instant cette brèche-là où est-ce qu'on dit l'artiste fait l'album d'une vie, l'album qui est sans fin. J'ai des thématiques, j'ai des idées comme ça. Mon prochain album, je peux le sortir physique, avoir une thématique précise. Là, il parle de TurboGrafx 16 qui va sortir en 2017. Peut-être, on verra bien. Il peut y avoir des choses, mais si il avait décidé, celle-là, elle me plaît moins, je vais la mettre, ou elle marche moins dans l'esthétique, mais elle me plaît beaucoup, je vais la mettre sur Life of Pablo. Donc,
un album d'une vie,
la question, ça va toujours être, ça pourrait être une œuvre artistique extraordinaire, mais aussi une œuvre commerciale vraiment intéressante. Donc, finalement, pour conclure, je pense qu'on peut reprendre des paroles de, justement, une pièce de l'album, Life of Pablo, qui est No More Parties in LA, où est-ce que, il a scandé déjà à ce moment-là, I feel like Pablo when I'm working on my shoes, I feel like Pablo when I see me on the news. When I see me on the news, est-ce que c'est l'homme d'affaires, l'homme qui travaille ses souliers, l'artiste, The Life of Pablo, which one?
Bravo! Donc, mais super, vraiment des idées super intéressantes, Étienne. Merci beaucoup. On va se quitter là-dessus. Merci beaucoup, Pierre-Luc, qui est toujours au téléphone.
Je suis toujours là.
Oui, c'est ce qui est resté tout le long. Bravo. Justement, merci d'avoir pris le temps pendant une heure de rester au téléphone. C'est quand même.
C'est que pour Pop en Stock que je
ferai ça. On s'en honore.
Merci Rachel, merci Jean-Guy et merci Étienne. On va se quitter sur une chanson, justement celle qu'au début on voulait faire passer en milieu, mais on va se quitter là-dessus. Restez à l'encontre des prochains épisodes de Pop en Stock. On va vous apporter des sujets très intéressants au courant des prochaines semaines. Sujet que j'ai complètement oublié en ce moment.
Donc, Gilmore Girls.
Merci, Gilmore Girls. On va voir Babysitters. Il va avoir. C'est ça, j'ai plein de blancs. Donc, passez une bonne soirée. Mon nom est Hélène Lorrain. Au revoir. Century, doing something mean to it, do it better than anybody you ever seen do it, screams from the haters, got a nice ring to it, I guess every superhero need his theme music, no one man should have all that power, the clock's ticking, I just count the hours, stop tripping, I'm tripping off the power, the system broken, the school's closed, the prison's open, we ain't got nothing to lose, everybody